Les petits contes qui crépitent au coin du Brasero.
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 Raconte.
Raconte.
Brasero raconte.
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Eh, Brasero, ça raconte quoi? Brasero.
Brasero.
Ça raconte
quoi? Vas-y, qu'est-ce que tu racontes?
Tu la racontes ou tu racontes?
Mais qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
C'est l'histoire d'Enzo et Greta.
Il était une fois la contrée de la montagne ronde. Les personnes qui y vivaient avaient la particularité de se lier aux choses et aux gens qu'ils aimaient par des fils. Ces fils se tissaient au fur et à mesure de leur vie, du premier au dernier jour de celle-ci. Bien qu'immatériels et invisibles, ils étaient leur plus grande richesse. Lors des éclipses solaires, on pouvait les voir scintiller de leur vive dorure.
La montagne ronde avait toujours su protéger ses habitantes. Ce lieu était depuis bien longtemps inconnu du reste du monde. Jusqu'au jour où Mireille la Cisaille, âme maléfique de la région, prit le pouvoir de la contrée à l'aide de sa brigade de sécateurs. Après ce coup de force, du jour au lendemain, les prix s'envolèrent. Le labeur devint harassant. Et quand les habitantes n'avaient plus rien pour payer, il y avait toujours un sécateur pour leur faire céder un fil.
Les fils d'or ainsi arrachés, des personnes auxquelles ils étaient attachés, étaient stockés dans la grande banque du palais. Bien des malheurs arrivaient à celles et ceux qui résistaient. En effet, les sécateurs se faisaient un malin plaisir de leur couper les fils les plus chers, les liens les plus tendres.
Enzo et Greta étaient frères et sœurs. C'étaient deux enfants que la montagne ronde avait vu naître et grandir. Peu après l'arrivée de la cisaille, ils s'étaient vus séparés de leurs parents qui avaient voulu tenir tête aux sbires maléfiques. Jetés en prison, leurs parents étaient morts après que chaque fil, chaque amitié, chaque souvenir, joyeux ou douloureux, leur soit enlevé, les laissant sans mémoire, sans lien, sans rien.
C'est pour cela que le matin suivant la perte de leurs fils les plus précieux, Enzo et Greta décidèrent de couper eux-mêmes tous les autres fils qui faisaient la trame fine de leur jeune vie et de les mettre en sécurité dans une boîte, leur boîte au trésor. Une fois soigneusement arrachés et rangés, ils et elles s'empressèrent de déguerpir loin, 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 loin là où la cisaille et sa bande de sécateurs ne viendraient pas trancher dans le vif de leur existence.
Avec chacun un petit baluchon, avec chacune une glacière de victuailles, avec la boîte au trésor et avec la peur au ventre, Enzo et Greta se mirent en route. Ils ne savaient pas trop où aller. Ils n'étaient jamais sortis de la montagne ronde et n'avaient idée ni de la mer, ni de la forêt, ni des champs, ni des villes, ni des plaines, ni des collines. Tout le monde leur était étranger.
Ils et elles marchèrent 5 jours et 5 nuits, sans rencontrer personne. Il ne leur restait plus rien à manger. Ils et elles avaient soif, avaient faim et étaient épuisés.
Au matin du 6e jour, ils avisèrent une petite silhouette au loin. Fous de joie, les deux enfants coururent vers elle. C'était celle d'un autre enfant qui fut tout aussi heureux de croiser âmes qui vivent dans ce morne secteur.
Lui, parti depuis moins longtemps, avait une grosse valise à roulettes qui paraissait énorme tant il était petit. Mais surtout, il lui restait encore quelques sandwichs. Il les partagea volontiers, ainsi que quelques paroles.
Enzo et Greta ne tardèrent pas à remarquer derrière le garçon une série de cailloux qui, de proche en proche, formaient une ligne à perte de vue. Piccolo Police, c'était son nom, leur expliqua qu'ils avaient quitté sa terre pour des raisons économiques, que les cailloux étaient une astuce pour l'aider à revenir quand les jours seraient meilleurs.
Mais plus qu'un passé, le Piccolo avait un avenir. Il savait où aller. Il avait entendu parler d'un pays où les maisons les plus luxueuses avaient des murs en pain d'épices, des portes en chocolat, des poignées en sucre d'orge et des tuiles en caramel. Et n'importe qui trouvait toujours un abri en chamallow pour abriter et nourrir sa carcasse. Plein de joie à l'idée de cette magnifique destination, ils se mirent en route dans la même direction.
La route fut longue, difficile, semée d'embûches. Le pays de sucre et de miel semblait comme se dérober à leurs désirs.
Jusqu'au jour où, à peine arrivés, ils se retrouvèrent avec d'autres personnes face à un bureau où des hommes et des femmes souriants leur demandaient de raconter leurs histoires. Après leur récit, sans avoir le temps de se dire au revoir, les trois compères sont vite séparés. Si Enzo et Greta se firent remettre un papier leur permettant de continuer leur route, ils ne devaient plus rien savoir de leurs compagnons d'infortune.
Très vite, ils et elles déchantèrent. Si effectivement le pays regorgeait de merveilles, de maisons délicieuses, chaleureuses et doucereuses, pour eux, c'était pas le paradis. En effet, le petit papier que leur avait remis la souriante madame ne leur donnait ni le droit de circuler librement, ni de gagner leur vie par eux-mêmes, pas même le droit de vivre où bon leur semblait.
Ils devaient se contenter d'une sordide bâtisse en pain sec, réservée à l'accueil des gens venus d'ailleurs et ayant de vraiment bonnes raisons pour ne pas être renvoyés fissa d'où ils venaient. On les appelait les MACVA, B-R-P-P-E-R-F, maison réservée à l'accueil des gens venus d'ailleurs et ayant de bonnes raisons pour ne pas être renvoyés fissa. Ouf, et ce n'était pas le seul sigle imbuvable qu'ils durent avaler.
Pourtant, après leur long périple, ce n'était pas si mal, et ils pouvaient ranger leurs trésors dans leur chambre. Cela faisait si longtemps qu'il et elle n'avaient pas eu un chez-soi.
C'est ainsi qu'Enzo et Greta passèrent 5 années à avancer sans retour, loin, si loin, invisiblement loin de leurs attaches profondes, sans langue, ni parents, ni amis au départ. Dans ce présent, étrangers en exil, dans cette distance qui paraissait incessante, leur énergie vivante et spontanée leur a donné de la force pour tisser de nouveaux liens faits de mots, de rencontres, de joie et de peine. Ces liens avaient une autre couleur, une autre forme que celle des fils de la montagne ronde. Ceux-là qui étaient toujours gardés précieusement dans leur boîte au trésor.
C'est un soir d'éclipse solaire que Greta remarqua que sur le pied d'Enzo, un fil d'or s'était tissé. Il était si fin et semblait si fragile, mais c'était bel et bien un fil doré, ce qui seul se fabriquait dans leur ancienne contrée.
Les deux frangins, émus devant ce spectacle si familier et si lointain à la fois, prirent la décision de remonter ce fil.
Le fil dans la main, ils marchèrent et arrivèrent assez vite dans une baraque en pain de mie. La porte entr'ouverte laissait passer une lumière douce et chaude qui les faisait se sentir bien. Ils poussèrent la porte et virent, dans la grande pièce principale, plusieurs personnes assises en rond sur des fauteuils et des chaises, discutant, partageant des boissons chaudes.
Une femme les repéra. Elle les voyait un peu timides sur le pas de la porte et les invita à passer.
« Entrez, n'ayez pas peur. Qui êtes-vous »
demanda-t-elle d'une voix douce.
« Nous sommes Enzo et Greta. »
dit Enzo timidement. Et elle leva la main dans laquelle elle tenait son fil d'or pour le montrer à la dame. Le visage de celle-ci s'illumina.
Je comprends, dit-elle. Venez. Beaucoup de personnes qui sont ici sont comme vous, comme moi. Exilées venues de la montagne ronde ou bien d'ailleurs.
Le cœur d'Enzo et Greta se mit à battre la chamade. Il et elle n'en revenaient pas. Et leur joie atteint son comble quand ils virent au fond de la salle, discutant avec un groupe de jeunes, Piccolo Police, qu'ils n'avaient pas revu depuis si longtemps, depuis qu'ils s'étaient séparés en arrivant au pays des délices.
Quelques heures plus tard, ils faisaient partie de cette petite communauté, des personnes venues de différentes contrées. La montagne ronde, la mer solide, les murs creux, les plaines allongées. Ils se réunissaient souvent, se tenaient informés de ce qu'il se passait dans leur pays et s'entraidaient quand ils le pouvaient.
Petit à petit, Enzo et Greta commençaient à comprendre comment Mireille la Cisaille et ses sbires utilisaient les fils d'or pour commercer avec les hautes autorités du pays des délices. Toutes ces maisons douces et dégoulinantes de sucre n'avaient pu se construire que sur leur douleur et leur coupure.
Enzo et Greta trouvaient bien amer le miel qui coulait dans ce pays. Toute cette profusion n'était que le fruit du pillage et de la douleur là-bas. Par contre, il et elle trouvaient une vraie richesse et de la force dans les liens qui se formaient avec leurs compagnons et compagnonnes d'infortune.
L'une d'entre elles et d'entre eux avait un jour posé en quelques phrases les émotions confuses qui les assaillaient souvent. Elle disait « Nous sommes condamnés à ce que nos enfants soient élevés dans une langue qui n'est pas la nôtre, et que nos yeux ne reconnaissent pas les rues et les arbres. Nous sommes condamnés à regarder nos grands-parents mourir lentement par courrier et voir nos neveux naître par-dessous d'un coup de téléphone. Mais peut-être, la pire condamnation entre toutes, c'est de voir notre pays se retirer, voir qu'il s'en va comme, comme une étrange marée distante et indéchiffrable, et constater comment, indécis, nos corps commencent à chercher la stabilité après des années précaires. Nos corps commencent à s'habituer, malgré eux, et peut-être pour toujours, à une terre qu'ils n'ont pas choisie de leur libre arbitre. »